Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Les obsèques du feu Monseigneur Tarsis Tubangou, évêque émérite du diocèse de Mbujimayi et président du conseil d'administration des universités du Congo débutent ce lundi ici à Kinshasa. Dans ce journal, vous suivrez des témoignages sur cette personnalité que certains jugent d'intègre jusqu'à sa mort. La prise en charge de malades dans la zone de santé de Réti en Ituri a du plomb dans l'aile à cause de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, conséquence d'un nombreux cas de décès maternels se compte depuis. Enfin, nous recevrons dans cette édition du journal le professeur Abbé Tibaka Tshikongo, recteur de l'université de Mbujimayi. Il a travaillé avec le feu Monseigneur Tarsis Tubangou comme secrétaire du diocèse pendant 28 ans. Il nous parlera de cet illustre disparu. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Les cérémonies des obsèques de Monseigneur Tarsis Tubangou Tshisiku, évêque émérite du diocèse de Mbujimayi et président du conseil d'administration des universités du Congo, débutent ce lundi ici à Kinshasa. Mort aux cliniques universitaires de Kinshasa le 29 décembre 2021 à l'âge de 88 ans, son inhumation aura lieu le mercredi 12 janvier prochain. Compte tenu de la dimension de sa haute personnalité religieuse et académique, le programme des funérailles est réparti en trois journées. En effet, feu Monseigneur Tarsis Tubangou a dirigé le diocèse de Mbujimayi de 1992 à 2009. Plusieurs paroissiens du diocèse de Mbujimayi se rappellent de ce personnage qu'ils jugent intègre jusqu'à sa mort. Écoutons les réactions de quelques paroissiens dans ce reportage réalisé par Esther Ndalafina.
Plusieurs paroissiens n'ont pas su retenir leur émotion en ce jour du début des obsèques du feu Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshisekou. Nombreux paroissiens reconnaissent qu'il était un homme plein d'amour et de bonnes initiatives.
Dans tous les milieux, je n'ai jamais entendu parler à mal de lui, que ce soit dans le milieu catholique ou dans le milieu païen. Partout, c'était une élite, c'était un intellectuel qui remplissait toutes les conditions d'intellectuel. Et c'est quelqu'un qui était un bon dirigeant.
D'autres estiment qu'il était un bon rassembleur et un homme exceptionnel.
Ça, c'est un homme de Dieu, un scientifique, un homme intègre. Il sait bien être en collaboration avec les gens. D'ailleurs, il avait son garde du corps. C'était un musulman. Donc, il vivait avec tout le monde.
La mémoire de Tshibangou Tshisekou reste gravée dans la vie des paroissiens de Mbujimayi.
Ah, ça c'était un monsieur exceptionnel. Un monsieur humble comme bonjour. Il était toujours souriant celui-là.
Signalons que plusieurs délégations de la province du Kasaï oriental se sont déplacées vers Kinshasa pour lui rendre un hommage digne de son nom. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, les 703 ménages sinistrés d'un vent violent accompagné d'une pluie diluvienne qui s'était abattue dans le territoire de Pounia le 9 décembre 2021 seront bientôt assistés par Caritas Développement Kindu. Déjà, l'opération d'identification des sinistrés est en cours. Selon les coordonnateurs du bureau diocésain des urgences, solidarité et partage de la Caritas Développement Kindu, cette assistance basée sur la vulnérabilité sera en cash. On écoute Monsieur l'abbé Christian Kungwa au micro de Florence Kizalunga.
Selon les rapports de la réunion des cadres des concertations humanitaires locales et validation des données des catastrophes de l'ouragan et vents violents du 9 décembre 2021 dans les territoires de Pounia, 703 ménages ont été affectés, dont 525 ménages se sont déplacés dans les familles d'accueil et 53 ménages se sont installés dans les maisons dont les propriétaires sont dans les mines. La Caritas Développement Kindu, étant saisie de cette situation difficile que vivent les ménages sinistré, a alerté tous ses partenaires humanitaires et la l'issue favorable de son partenaire CAFOD, qui est une Caritas britannique, qui, lui, a été appuyé financièrement par StatFound. Voilà ce qui nous permettra de venir en aide à cette population sinistrée. Il faut noter que l'assistance sera en cash inconditionnel. Comme tout humanitaire, l'approche pour l'identification des bénéficiaires est basée sur la vulnérabilité. Cette vulnérabilité est sociale et matérielle.
Dans le territoire de Djougouan-Itouri, la situation sécuritaire rend difficile la prise en charge des malades dans la zone de santé de Réti, ce qui a comme conséquence de nombreux cas de décès maternels. Pour les responsables de cette zone de santé, il est urgent que le gouvernement provincial intervienne afin de sauver des vies. Marc Marofimbo.
À en croire les responsables de la zone de santé de Réti, l'insécurité qu'a connue cette région l'année dernière a fait que la prise en charge des malades est devenue compliquée car plusieurs structures sanitaires de l'intérieur ont fermé leurs portes. Les malades n'ont plus accès aux soins de santé et les premières victimes sont les femmes enceintes qui ont du mal à accoucher. Certaines sont transportées sur des motos ou vélos sur des grandes distances pour atteindre l'hôpital général de référence de Réti. Ici, on enregistre des cas de décès maternel, comme nous l'explique le docteur Albert Vena de la zone de santé de Réti.
Comme notre l'hôpital est loin, il a fallu que nous puissions être appuyés par le moyen de déplacement. Ça pouvait beaucoup nous aider pour permettre d'aller récupérer les malades, à faire des transferts des malades pour les soins appropriés. À un moment donné, nous, on a vécu même les cas de décès maternels qui venaient des zones voisines, telles que des zones de santé du Jiba, même des zones de santé du Linga, parce que le moyen de déplacement manquait.
Le docteur Albert Vena demande également une cohésion avec les zones de santé voisines pour la prise en charge des malades qui se déplacent d'une zone de santé à une autre. Mais il plaide surtout pour le retour de la paix dans la région afin que la population ait accès aux soins de santé primaires. Bounia, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
On reste en Ituri. Les deux enseignants d'université membres d'une communauté locale arrêtés il y a 4 jours à l'auditorat supérieur près de la cour militaire de Bounia sont en liberté provisoire depuis hier dimanche. Ils sont soupçonnés, vous le savez, d'être de connivence avec le groupe armé Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC. L'auditeur supérieur indique que, malgré cette libération provisoire sans caution, leur dossier n'est pas pour autant clos. Les enquêtes continuent. Les détails avec Marcel Kizabiamungu.
Il s'agit du professeur Mungisha Bakou Kato de l'université Shalom de Bounia et d'Oudanga Kavarios, recteur de l'université Dissé-Promade et enseignant à temps plein à l'université de Bounia. Tous deux ont été interpellés les mercredis à l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Selon des sources proches de la justice militaire, c'est à la suite d'une dénonciation par un suspect arrêté par la même juridiction dans une affaire toujours en cours d'appartenance à des groupes armés. Selon l'auditeur supérieur, Joseph Makelele, cette libération provisoire sans caution n'exclut pas la poursuite des enquêtes par son bureau dans cette affaire qui menace la sécurité de la population. Dans un avis de recherche délivré par l'état-major du secteur opérationnel le 28 décembre dernier, 8 autres personnes sont dans la ligne des mires de la justice militaire pour participation à un mouvement insurrectionnel. Il s'agit de 2 exploitants miniers, des Babokela, 3 opérateurs économiques, des tenanciers d'un hôtel à Komanda et Mara et un importateur de produits pétroliers très connu à Bounia. Martial Kiza Biamungu, Bounia, Radio Okapi.
Autre nouvelle au Nord Kivu, installé officiellement hier dimanche à Goma, les 7 membres du nouveau comité provincial de l'église du Christ au Congo ECC sont appelés à travailler pour la paix et la promotion de la cohabitation interethnique en province. Ce comité, présidé par le révérend docteur Samuel Ngaye Mbako, a été installé lors d'un culte auquel ont pris part les autorités gouvernementales et religieuses venues de plusieurs milliers géographiques de la RDC. Bernard Nyangi.
Le président national de l'ECC, Révérend André Bokundoa, qui a installé le nouveau comité provincial, a été le premier à attribuer à celui-ci la tâche de travailler pour la paix. Ce, avant que le même appel soit réitéré par le gouverneur du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Dima.
Face à cette situation, et qui constitue une menace contre l'intégrité du territoire national, la mission de l'état de siège et de l'église est la promotion de la paix. Nous devons conjuguer ensemble nos efforts pour conquérir cette paix, devenir une denrée rare pour notre province.
Au nouveau président provincial de l'ECC, d'insister sur la mission d'unir les communautés ethniques à laquelle, selon lui, son comité devrait s'atteler. Révérend docteur Samuel Ngaye Mbako.
Chaque communauté vient avec sa majorité tribale et quand les communautés ecclésiastiques collaborent, contribuent ainsi à unir les tribus dans la cohabitation. J'aimerais que les différentes communautés de l'ECC forment une véritable église unie.
Rappelons que le docteur Ngaye Mbako, qui remplace à ce poste le révérend Lévi Moulé Gambala, décédé en juillet 2021, et secondé par le révérend Batase Manganga avec 5 membres du bureau du synode provincial de l'ECC. Goma, Bernardin Yagi, Radio Okapi.
Le trafic urbain est perturbé depuis ce lundi matin dans la ville de Goma. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Les conducteurs des taxis-bus protestent contre la décision du maire de la ville visant à colorer tous les taxis-bus en jaune. Du coup, Gabriel Wamenya, toutes les activités socio-économiques tournent au ralenti.
Le trafic urbain qui a commencé comme à l'accoutumée ce lundi matin s'est vite estompé sur les axes principaux qui relient les quartiers périphériques au centre-ville de Goma. Au niveau par exemple de la bifurcation communément appelée Afiabora dans la commune de Karisimbi, ce sont les chauffeurs des taxibus qui ont bloqué la route arborant un calico sur lequel on pouvait lire Hatutaki Rangi Amanjano, c'est-à-dire nous ne voulons pas de la couleur jaune. Ces conducteurs protestaient ainsi contre la dernière décision du maire de Goma exigeant à tous les propriétaires des taxibus de les colorer en jaune frappé d'une bannière du drapeau de la RDC pour mieux les identifier. Pour la coordination urbaine de la société civile, la décision n'est pas du tout mauvaise. C'est la procédure qui n'a pas été respectée. De son côté, le maire de Goma justifie cette initiative pour des raisons sécuritaires. François Kabea Makosa.
C'est pas seulement à Goma que nous appelons à ce que les taxibus soient peints en jaune. Et c'est pour identifier les taximens, puis même les taxibus. Ceci le plan sécuritaire aussi.
Quelques magasins, boutiques et autres activités similaires de commerce restent encore fermés jusqu'à 16h avancées de la matinée. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et puis l'instauration du système de cash power dans la ville de Bukavu facilite l'éclairage à l'intérieur des maisons des abonnés de la SNEL. Mais les artères principales de la ville baignent dans l'obscurité à chaque tombée de la nuit. Cela s'observe dans tous les quartiers de la commune d'Ibanda où le cash power est déjà effectif. La population s'interroge alors à quoi sert la quotité réservée à la mairie de Bukavu pour l'éclairage public. Jean Kassami a fait le tour de l'avenue Muhumba. Suivez son reportage.
C'est sur l'avenue Muhumba dans la commune d'Ibanda que la Société Nationale d'Électricité SNEL Sud Kivu a implémenté son système cash power depuis une année et deux mois. À chaque tombée de la nuit, plusieurs ménages se précipitent à éteindre les ampoules par souci de gérer la consommation de l'énergie. Suivez ces deux abonnés.
C'est la responsabilité de l'État congolais qui devait éclairer la ville.
Pour avoir cash power, il faut d'abord payer à la SNEL. On te donne le courant comme les unités. Même à la maison, parfois, il y a un problème. Comme moi, tu vois ici, avant-hier, j'ai cogné la porte. Quand je me suis réveillé la nuit, aller aux toilettes parce que je ne voyais pas très bien. Alors, l'insécurité, c'est sur la route, mais aussi dans la maison.
Si cette pratique permet aux abonnés de veiller au contrôle exclusif de la gestion des consommations d'électricité, les artères principales restent plongées dans le noir. Le directeur provincial de la SNEL, Jovi Mulemangabo.
Je ne sais pas pourquoi les gens éteignent les ampoules dans les avenues, alors que nous leur avons dit qu'avec les ampoules à économie d'énergie, ça ne consomme pas énormément et il ne faudrait pas que les gens se laissent dans l'obscurité. On avait éclairé tous les boulevards. Mais c'est après qu'on a commencé à voler les fils qui alimentaient les projecteurs. Et c'est ce que nous sommes en train de remplacer pour le moment.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est exprimé à la suite de l'annonce des sanctions de la CEDEAO envers le régime militaire malien. Des mesures à effet immédiat qui ne seront levées que lorsque la junte présentera un calendrier acceptable. Et puis, des pourparlers entre Russes et Américains ont commencé ce lundi 10 janvier à Genève, a indiqué un porte-parole du département d'État américain sur fond des craintes d'une invasion de l'Ukraine par Moscou. Cette réunion se tient entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays, la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman et le vice-ministre russe Sergei Ryabkov.
L'invité.
C'est aujourd'hui que débutent les obsèques du feu Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishiku, évêque émérite du diocèse de Mbujimayi. Le professeur recteur abbé Tshibaka Tshikongo a travaillé avec le feu Monseigneur Tarsis Tshibangu comme secrétaire du diocèse pendant 28 ans. Dans une interview accordée à Radio Okapi, ce prêtre de Mbujimayi nous parle du personnage de cet illustré disparu. Il s'entretient ici avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour, professeur, abbé, recteur Apollinaire Tshibaka.
Bonjour.
Oui, c'est aujourd'hui que débutent les obsèques du feu Monseigneur émérite diocésain Tarsis Tshibangu Tshishiku, Et voilà, vous êtes à Kinshasa, vous avez travaillé à ses côtés, vous étiez secrétaire épiscopal, donc vous avez travaillé à ses côtés. Pouvez-vous donc nous parler de ce personnage reconnu aujourd'hui dans le monde scientifique?
Écoutez, Monseigneur Tshibangu, c'est d'abord un prêtre, un évêque catholique, qui est un homme surdoué du point de vue intellectuel, mais aussi un homme profondément spirituel, parce que grand théologien. Il a su évoluer avec brio dans différents domaines, que ce soit dans la vie de l'Église, que ce soit l'enseignement, la recherche comme professeur, mais aussi comme prêtre. Il a toujours été un prêtre exemplaire, comme évêque, et comme professeur, comme chercheur, comme gestionnaire. C'est le premier recteur noir au Congo, et il est mort président du conseil d'administration des universités. Ses titres dans le monde ecclésiastique ou scientifique, c'est une très longue liste, appartenu à plusieurs grandes sociétés de savants et de sciences dans le monde.
Après avoir vécu avec lui, qu'est-ce qu'il vous a inspiré?
Donc, peut-être là, j'ai résumé en 10 points tout ce que j'ai reçu de lui. Mais si je pouvais le résumer aujourd'hui, j'utiliserais le mot d'héritage. Monseigneur Tshibangu est mort, mais Monseigneur Tshibangu est vivant. Sa mort n'est pas la disparition d'un être, parce que sa mort l'a présenté à même patrimoine moral, intellectuel et spirituel. Au mois d'octobre qui vient, nous allons organiser un colloque consacré à sa personne. Donc, Monseigneur Tshibangu Tshibangu Tshibangu, les défis d'un héritage. Donc, c'est un héritage pour moi aujourd'hui. Un héritage pour lequel nous devons travailler afin que sa mémoire et sa fécondité continuent. Nous l'avons déjà commencé en érigeant d'abord un centre culturel. Et en deuxième lieu, nous avons commencé l'édition critique de ses œuvres. Un premier volume de presque 700 pages a été publié avec ses différents écrits théologiques, donc des articles de petite taille. Bientôt, nous allons commencer à publier l'ensemble de ses œuvres. Il a été un chercheur de Dieu au niveau de la foi et de la raison, mais aussi un pasteur. Ce n'est pas, comment dirais-je, un intellectuel évasif, mais plutôt un homme avec des choses sur terre. Il a su combiner ces dimensions-là. Donc aujourd'hui, quand il est mort, je me rends compte, comme beaucoup d'autres, de la chance que nous avons eue à avoir évolué à côté de lui.
Et quelles sont les œuvres que ce Monseigneur Tshibangu Tshibangu Tshishiku a réalisées dans le monde scientifique?
Écoutez, en termes de publication, il est l'auteur d'une vingtaine de livres, mais aussi de plusieurs dizaines de textes. Mais la grande œuvre pour moi est double. C'est d'abord la formation des hommes au Congo aujourd'hui. Donc, la plupart des profs que nous avons sont passés par ses mains. Et n'oubliez pas qu'il a été longtemps recteur de Novanium et puis après de l'INASA. Mais en dehors de ça, il est mort du conseil de l'université, mais il a été ce témoin-là, cette conscience physique qui, au sein de l'ESU, est invité à construire une université africaine, moderne et adaptée aux défis.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut incarner dans notre jeunesse? Qu'est-ce que son personnage peut incarner?
Monseigneur Tshibangu est un grand homme. Je crois qu'il est une invitation à prendre la vie au sérieux pour que votre passage sur la terre ne soit pas le passage d'une feuille morte, mais plutôt d'une feuille vivante et qui laisse des traces de marque. Il y a une succession de pertinence, donc nous devons exister de manière positive. Ça valait la peine qu'il existe.
Merci beaucoup, Abbé, professeur, recteur.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.